Vous êtes sur Radio Klaxon. Il fait très, très, très humide. 107.7, vous êtes bien à Notre-Dame-des-Landes. Radio Klaxon.
Coucou, bonjour tout le monde. On va faire le cinquième épisode de l'émission sur l'éco-citoyennisme. Et du coup, voilà, c'est l'épisode conclusion synthèse. Je rappelle que les premières, du coup, qu'on rediffuse de temps en temps et qu'on va rediffuser bientôt, la première était sur l'État, la deuxième sur les médias, la troisième sur les experts, le quatrième sur le mouvement écologiste et les associations. Et du coup, voilà, on va faire les conclusions synthèses tout de suite.
Oui, alors dans ce cinquième épisode, on pensait aborder dans un premier temps la question des classes sociales, donc éco-citoyennisme et rapport de classe. Ensuite, faire un retour critique sur les 4-5 émissions qu'on a pu faire, ce qu'on a dit, ce qu'on a mal dit, ce qu'on a oublié, ou les désaccords qu'on peut avoir entre nous. Et après, tenter une conclusion à ces 5 épisodes. Donc, on a pu voir pendant ces 5 épisodes en quoi consistait l'idéologie éco-citoyenniste, en quoi elle faisait de la question climatique un problème individuel, un problème moral et donc non politique. Et on a vu en quoi ça en faisait un enjeu sur lequel on n'avait que peu d'emprise. On a vu en quoi l'État, les médias, les experts et le mouvement écologiste participaient à cette dépossession des enjeux environnementaux afin d'éviter, de s'épargner une remise en question de l'ordre établi. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir aborder une analyse en termes de classe sociale afin de voir en quoi cet éco-citoyennisme qui est porté, défendu et propagé par les acteurs qu'on a pu aborder, en quoi elle est une vision du monde qui s'avère être à l'avantage des classes dominantes, c'est-à-dire un outil favorable aux groupes sociaux dominants, aux classes aisées et possédantes. Donc peut-être dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu entends par... est-ce que tu peux revenir sur tes travaux et nous expliquer qu'est-ce que tu entends par classe sociale et qui sont ces classes sociales dominantes qu'on va aborder par la suite?
Bonjour tout le monde, content d'être là pour ce cinquième et dernier épisode qui vient clôturer donc une série d'émissions dont l'idée était de partir du livre que j'ai publié l'an dernier qui s'appelle « La question climatique, genèse et dépolitisation d'un problème public » qui consiste en une analyse structurelle des enjeux climatiques. Donc moi je suis sociologue. L'idée c'était de partir de ce livre pour essayer de voir ce qu'il pouvait apporter aussi aux discussions, aux enjeux, aux débats sur zone. Voilà, voir en quoi il pouvait être aussi un outil un outil de la lutte, un repos, enfin. Un support pouvant alimenter certaines luttes. Et notamment, on trouvait qu'il y avait quelque chose à faire autour de l'éco-citoyennisme qui est quand même, on l'a vu notamment dans la dernière émission, qui est très présent dans le mouvement écologiste. On avait évoqué le fait qu'il y avait une forme de brouillage idéologique, puisque le fait d'être écologiste au quotidien, de se comporter en bon écologiste, respectueux de tous les aspects naturels des écosystèmes, etc. Bon, c'était important dans la lutte écologiste, mais c'était aussi, on avait vu, ça pouvait rejoindre, se confondre un peu avec le discours dominant néolibéral qui vise à ériger les individus en responsables de tous les problèmes. Et donc, donc du coup, ça nous semblait important d'essayer de clarifier un peu les choses autour de cet éco-citoyennisme qui, des fois, qui est donc, on va le repréciser aujourd'hui, un outil du pouvoir, un outil des classes dominantes, mais qui se retrouve aussi dans beaucoup, beaucoup de mouvements qui se mobilisent sur les questions écologiques. Donc ça, c'est le point de départ. Ouais.
Et une pensée qui nous touche et nous concerne aussi, dans le sens où elle nous influence directement ou indirectement, et que dans l'idée de cette émission, il y avait aussi la volonté de faire un travail sur soi, sur en quoi, essayer de déceler en fait en quoi cette pensée peut nous influencer dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense, et d'être conscient de ce poids sur nous-mêmes.
Ouais. Et notamment, je pense que pour rebondir là-dessus, sans doute qu'une analyse en termes de rapport de classe est importante parce que justement elle permet aussi de voir à quel point l'éco-citoyennisme, l'idée de se changer soi-même pour sauver la planète, ben, c'est une pensée qui est plus facilement recevable et par les classes dominantes finalement parce qu'elle correspond aussi à leur vision du monde. En fait, c'est ça que je voudrais essayer de défendre aujourd'hui. Donc, je parlais d'une sociologie structurale, c'est-à-dire que moi je fais partie de ces sociologues peut-être un peu vieux jeu qui pensent qu'il faut penser à la société en termes de structure sociale, en termes de structure, de répartition inégale des privilèges, qu'ils soient des privilèges moraux en termes de reconnaissance, de valeurs symboliques, de légitimité, etc., mais aussi les privilèges matériels en termes de ressources économiques, de, voilà, d'accès à la propriété et autres, quoi. Et que les deux doivent être pensés ensemble. Donc répartition inégale de ces privilèges, qui est le résultat en fait des structures d'organisation sociale, c'est-à-dire des structures à partir desquelles est organisée la société, quoi. Et donc du coup, ça invite à penser en termes de rapport de classe, alors, classe sociale, c'est-à-dire le fait que y a des franges de la population qui héritent d'un certain nombre de manières d'être, de manières de penser, de manières de parler, de s'habiller, de se comporter, de se porter aussi, qui sont ces manières-là sont favorisées, survalorisées dans le monde social. Et que le fait que on parle d'arbitraires sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des modes de fonctionnement des institutions, on peut penser à l'institution scolaire, on peut penser évidemment au monde du travail, qui viennent favoriser certaines dispositions sociales, c'est-à-dire certaines propensions à être comme il faut être, quoi. Répondre au code de comportement, au code d'interaction, au code conversationnel propre à ces institutions du monde du travail, de l'école, institutions culturelles aussi, etc. Et donc, l'idée, c'est de voir que l'éco-citoyennisme, en fait, ça participe de ça. Ça vient valoriser un certain type de comportement d'une façon qui est favorable aux classes dominantes. Au gré des quatre dernières émissions évoquées, mais là, c'est de faire un peu la synthèse aussi de ce point de vue-là.
Est-ce que c'est possible de décrire ou d'expliquer qui sont ces classes dominantes ? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, elles sont dominantes ?
Ouais. Alors, quand on parle de classe sociale, il y a souvent, de façon assez classique, il y a deux dimensions dans les classes sociales. Il y a une dimension objective et une dimension subjective. Il y a la classe en soi et la classe pour soi. La classe en soi, c'est la dimension objective. C'est-à-dire qu'on possède, de par notre origine sociale, de par notre trajectoire sociale, notre réussite à certains concours. Hein, le concours, c'est quelque chose de très important. C'est des fois à 0,1. À une note qui change de 0,1 plus ou moins, ben en fait, c'est tout le destin qui change parce qu'on a le concours, on n'a pas le concours. Des fois, ça se joue à un point, quoi. Et derrière, c'est... je m'égare, mais pour revenir à la classe en soi, c'est les franges de la population qui ont le plus de ressources matérielles, le plus de diplômes, le plus de revenus, le plus d'assurance matérielle. Qui ont des relations familiales, amicales, professionnelles qui leur permettent de ne pas se faire de soucis pour l'avenir d'une certaine façon et du coup de pouvoir se projeter aussi dans l'avenir. Donc il y a cette dimension objective, c'est qu'est-ce qu'on possède objectivement comme ressources pour s'imposer dans la concurrence du monde social, quoi. Donc ça c'est pour les classes dominantes. La dimension en soi, c'est ça, la dimension objective. Et puis les classes pour soi, c'est ce qu'on appelle les consciences de classe, c'est la dimension subjective, c'est on a conscience d'appartenir à une certaine fraction de la population. Et du coup, on sait que quand on tient certains propos valorisant certaines attitudes, on sait que derrière aussi, on valorise les personnes qui partagent les mêmes conditions d'existence, les mêmes manières de voir les choses, les mêmes manières de se comporter. Donc l'idée est qu'on partage des intérêts sociaux, quoi.
Des intérêts communs.
Des intérêts communs, ouais. Voilà, c'est des intérêts qui sont partagés, qui sont communs. Et donc, ce qui caractérise d'ailleurs aujourd'hui les classes dominantes, c'est qu'elles ont une très forte conscience de classe. Là où, dans les milieux populaires, justement, parce que la société est organisée comme ça, il y a une mise en concurrence beaucoup plus forte. Et bon, c'est les travaux des Pinson Charlot hein, qui montrent que voilà que ceux qui finalement ce qui caractérise les classes dominantes, c'est aussi la capacité à défendre leurs intérêts, à commencer par leurs espaces de vie d'ailleurs. Donc les classes sociales, voilà, c'est essayer de penser ces deux dimensions-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Oui, oui. Et justement, dans ton ouvrage, tu parles d'une croisade morale conservatrice qui permettrait aux classes dominantes, qui, au lieu d'être mises en question par le fait que leur mode de vie est énergivore, qui arrivent en fait à tirer profit de cette pensée éco-citoyenniste, notamment en termes de distinction.
Oui, voilà, on en arrive effectivement au lien entre qu'est-ce que l'éco-citoyennisme vient faire dans ses rapports de classe. Il vient faire deux choses, en fait, et justement sur la dimension objective et sur la dimension subjective. L'éco-citoyennisme, tel qu'il s'est développé, on l'avait dit, il me semble, dans la toute première émission, où on parlait de la façon dont l'État avait individualisé le problème, c'est-à-dire l'avait renvoyé à la sphère individuelle des comportements privés, domestiques, quotidiens, pour en faire une affaire morale et non pas une affaire collective et politique. L'éco-citoyennisme, donc, on l'avait dit, ce qui est frappant, c'est que c'est toute une morale, il vient nous expliquer quels sont les bons comportements pour la planète, mais donc il se repose sur l'exemplarité. Il met toujours en avant les bons comportements et il ne vient jamais pointer du doigt les mauvais comportements. Du coup, passe sous silence les inégalités de contribution au problème. Ça, il me semble que c'est des choses qu'on a déjà dit, mais il est peut-être important de les répéter parce que c'est vraiment central. C'est-à-dire que du coup, l'éco-citoyennisme, sur la dimension objective, en fait, il est inoffensif. Il permet de maintenir à l'abri de la critique les styles de vie bourgeois, les styles de vie dominants. Donc, il ne les remet pas en cause. Donc, d'une certaine façon, la distribution inégale des privilèges, des richesses, des ressources, ce n'est pas interrogé par l'éco-citoyennisme. Du coup, ça permet aux classes dominantes de faire valoir une bonne conscience écologique sans avoir à réinterroger l'ensemble de leur style de vie. Du coup, ça permet aux styles de vie dominants les plus valorisés, d'être encore plus dominants et encore plus valorisés parce qu'ils peuvent se prévaloir d'une bonne conscience écologique, d'une bonne volonté écologique, en disant ben regardez, voilà, je m'achète du bio, de quoi isoler mieux ma maison, une voiture, une Toyota Prius ou je sais pas quoi. Bon, voilà. Donc il y a cette idée que ça permet valoriser, de gratifier encore plus les styles de vie bourgeois dominants. Alors que ce que l'on montre aussi, enfin ce que j'ai montré aussi dans le livre, c'est que en m'appuyant sur les statistiques produites par d'autres, d'ailleurs, mais que j'ai un peu relu à ma sauce, c'est que ces statistiques montrent que ces styles de vie dominants et bourgeois, c'est pourtant ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Donc à travers ça, en fait, en pointant du doigt ce paradoxe de l'éco-citoyenneté, de l'éco-citoyennisme, c'est de montrer aussi que en fait, les structures sociales, c'est bien elles qui sont en jeu, puisque les comportements, les modes de déplacement, les modes de logement, les modes d'habitat, les modes de consommation, les mieux valorisés par les structures sociales, sont pourtant les plus nocifs pour l'environnement. Donc ça montre bien qu'il faut déconstruire ces structures sociales, défaire ces structures sociales pour en imaginer d'autres qui valorisent des comportements beaucoup plus sobres, beaucoup plus respectueux de l'écosystème, mais aussi qui soient soucieux de lutter contre les inégalités sociales. Bon.
Il y a c'est moi, un truc qui m'a beaucoup parlé, c'est cette idée de style de vie, en fait, qui, en raisonnant en termes de style de vie, permet de tout repolitiser. Parce que tu dis que en utilisant cette pensée éco-citoyenniste, les classes dominantes évitent d'être mises en question, mais c'est utilisé pour culpabiliser les personnes qui correspondent pas à ces normes de vie qui sont devenues désirables. Ça permet de pointer du doigt et d'individualiser d'autant plus les personnes qui peuvent pas se permettre ces modes de consommation, en leur disant mais en fait vous correspondez pas à ce qu'il faut être, et par rapport à la question climatique, en fait il faut pouvoir y participer, et ce que vous faites c'est faux.
Exactement, c'est-à-dire que c'est tout le... En fait, ce que tu me dis me fait réaliser et penser au fait que dans ce processus de dépolitisation qu'on analyse depuis 4 épisodes et sur lequel je reviendrai aussi pour synthétiser quelques points importants tout à l'heure, il y a en fait aussi un retournement du stigmate. C'est-à-dire que là où les styles de vie bourgeois devraient être stigmatisés, pointés du doigt parce que objectivement les plus polluants, en fait l'éco-citoyennisme permet de renverser cette logique-là, et de pointer du doigt ceux qui, effectivement, ne sont pas disposés, ne sont pas, dont les modes de vie ne permettent pas de se comporter en de bons petits éco-citoyens, quoi, de gentils éco-citoyens. Alors, et c'est là où ça me permet de préciser ce que je disais sur l'analyse structurale en termes de rapport de classe. Ça implique de faire quoi ? Ça implique de regarder, d'une part, d'où vient, comment est situé socialement l'éco-citoyennisme. C'est ce qu'on avait vu. On avait vu que ceux qui produisent les discours éco-citoyens, c'est quand même des gens qui appartiennent, tous appartiennent aux classes moyennes supérieures, classes supérieures. Donc, ils pensent l'écologie avec leur logiciel socialement situé, qui sont le résultat de leur éducation, de leur rapport à l'individu, au changement, à plein de choses. On y reviendra tout à l'heure. Donc, d'aller voir, du coup, et ça, en fait, ce qui me permet de le constater, c'est que je regarde que ces gens, qui sont ces gens qui produisent les discours éco-citoyens. Puis après, je vais regarder dans les différentes classes sociales, je vais recueillir la façon dont les gens appréhendent ce discours éco-citoyen. Comment les gens appréhendent l'individualisation du problème climatique et de l'écologie en général. Et ce que je m'aperçois, c'est que plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus on est dans les classes dominantes, plus ce discours est très bien reçu, très bien perçu. D'autant mieux reçu qu'il, encore une fois, il ne vient pas les chatouiller, il ne vient pas les bousculer, il ne vient pas remettre en cause leurs privilèges. Et, voilà. Et quand on descend l'échelle sociale et qu'on va dans les classes populaires, là, c'est là, en fait, que ça, c'est ce travail-là qu'il faut aller faire et qui est trop peu fait, à mon avis. C'est-à-dire qu'on a trop peu de connaissances sur le rapport des classes populaires à l'écologie, à l'environnement, à la nature et aussi à l'éco-citoyennisme. Moi, ce que j'ai observé à travers notamment des entretiens assez longs avec des membres des classes populaires, c'est qu'ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien que l'éco-citoyennisme, c'est la morale dominante, les normes dominantes. Ils ont conscience de ça, ils sont pas du tout dupes, mais simplement ils disent mais nous ça nous parle pas quoi, pour nous c'est du bluff, enfin voilà, c'est de l'écologie de bonne conscience, c'est de l'écologie de riches. Nous d'une part, enfin il y a plusieurs choses à dire, c'est que d'une part ils mettent deux choses en avant, ils permettent d'une part ils font comprendre que ce discours là c'est pas un discours qui leur parle, les mots qui sont employés, les références qui sont employées, prendre soin des générations futures, l'idée d'une solidarité internationale, donc le fait d'être prévoyant à long terme et loin, avec cette prévoyance aussi lointaine dans l'espace, bon ça correspond pas à leur mode de, voilà, eux ils vont privilégier les solidarités locales. Et le faire ici et maintenant, eux, c'est voilà, ça a toujours été le cas.
C'est les problématiques quotidiennes.
Ouais, voilà. Donc ouais. Eux, ils disent mais c'est enfin voilà, ça ne leur parle pas. Ça va pas les mobiliser quoi. Bon, par exemple, c'est intéressant de regarder. Il y a des collègues qui ont travaillé sur l'agriculture biologique et en fait, ils expliquent que l'agriculture biologique, en fait, donc l'agriculture alternative, en fait, elle fait la promotion d'une agriculture qui, dans les familles de paysans, est encore présente, mais qui est une agriculture de l'économie domestique, en fait. Et en fait, cette agriculture de l'économie domestique, pour le dire comme ça, c'est-à-dire une agriculture à petite échelle, où la vie du foyer est rythmée par la vie de la production agricole, en fait, elle a été battue en brèche, elle a volé en éclats au moment de l'industrialisation agricole. Mais cette industrialisation agricole, c'est les années 60-70. Donc, en gros, les grands-parents, d'une certaine façon, de ces familles-là, ils ont connu cette industrialisation, on leur a vendu du rêve, on leur a dit vous allez accéder à la modernité, au confort de la consommation de masse, etc. Et puis aujourd'hui, on vient leur expliquer que en fait non, il faut revenir en arrière. Donc forcément pour eux c'est un retour en arrière et donc ils veulent pas. Voilà. Et donc c'est ce genre de mécanisme qui est complètement impensé et qu'il faudrait réussir à penser. Et du coup, pour eux, ils voient l'agriculture biologique comme quelque chose de violent. Enfin, quand ils voient ces AMAP, etc., ils disent, mais attendez, là, pendant 30 ans, on nous a expliqué qu'il fallait plus ça, puis là, vous nous dites que c'est à nouveau ça. Et nous, on nous demande quoi notre avis, quoi. Enfin, en gros, voilà.
Et surtout, ça se fait toujours à leur détriment, dès le moment où on les a poussés à se transformer pour être dans l'agriculture conventionnelle. Le fait de devoir changer de modèle d'agriculture, ça sera forcément des coûts et des sacrifices pour les mêmes personnes.
Exactement. Et donc, du coup, voilà, ils sont mis à distance et il y a une distance. Ils ont un rapport distancié à cet éco-citoyennisme qui ne leur parle pas et qui, du coup, n'a pas de signification concrète pour eux, parce que ça ne, voilà, c'est première chose. Deuxième élément, c'est aussi simplement, je crois que je l'avais déjà dit, c'est les coûts matériels. C'est-à-dire qu'ils expliquent que, bah, ok, c'est très bien d'être ces normes éco-citoyennes, mais en fait, ça implique d'avoir les moyens de réfléchir à ces modes de consommation quotidien, à la façon de d'avoir les moyens aussi d'être. Ça suppose une certaine aisance matérielle, quoi. Les vertus morales, ça, elles reposent sur une forme d'aisance matérielle. En tout cas, celles qui sont éculées. Et eux, ils disent, bah, nous, juste, voilà, c'est ce que je crois que je l'avais déjà dit, hein, c'est le discours de, bah, nous, on n'a pas les moyens de se la péter écolo, en gros, quoi. Parce que, voilà, nous, faire attention à la planète, c'est très bien, mais nous, avant de faire attention à la planète, on fait attention à notre porte-monnaie, parce que, voilà, c'est... Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont pas envie de faire des choses pour la planète. Simplement, pour eux, il faudrait proposer autre chose. Pour eux, ça se joue pas dans leur quotidien, ça se joue pas à l'échelle individuelle, quoi. Voilà. C'est dans les milieux ruraux qu'il y a une solidarité, qu'il y a de l'entraide, qu'il y a beaucoup d'interconnaissances, et c'est ensemble, à l'échelle de village, que des projets peuvent éventuellement se monter, mais c'est pas du tout le discours dominant, donc ça les incite peut-être pas, et encore, il faudrait davantage creuser ce point-là. Mais du coup, effectivement, dans la mesure où cette grammaire de l'éco-citoyennisme, ce vocabulaire, ce langage de l'éco-citoyennisme est détaché des modes de vie, des modes de raisonnement, des réalités des classes populaires, effectivement, alors que c'est pourtant eux qui ont les styles de vie les moins pollueurs, les moins à l'échelle d'une année, les milieux populaires étant contraints économiquement, émettent toujours moins de gaz à effet de serre et détruisent toujours moins la planète que les membres des classes supérieures qui pourtant font preuve de bonne conscience, quoi. Donc le paradoxe, c'est qu'effectivement, ceux qui polluent le plus, bah, sont ceux qui sont valorisés par le citoyennisme, alors que ceux qui polluent le moins sont ceux qui sont, comme tu le disais tout à l'heure, pour le coup stigmatisés parce qu'ils ne font pas attention. Il y a quelque chose qui est assez prégnant là-dessus, et qui est assez fort en termes de racisme de classe, justement, c'est la question des pollutions visibles. Parce qu'on va souvent dire, oui, mais dans les milieux populaires, ils trient pas leurs déchets, ils jettent les ordures dans les trottoirs, c'est sale. Hein, cette idée que les classes dangereuses sont les classes laborieuses sont aussi les classes sales, quoi, d'une certaine façon. Il y a toujours eu cet imaginaire-là. Voilà. Sauf que peut-être qu'ils émettent un peu plus de pollution visible, parce qu'ils sont aussi moins soucieux de se comporter comme il faut, moins soucieux du jugement des autres, peut-être. Et encore. Ce qu'on sait aussi, c'est que les intérieurs des foyers domestiques en milieu rural, par exemple, sont toujours nickel, quoi. C'est très important. Pour plein de raisons, c'est que aussi, il y a le souci de ne pas tomber malade, parce que tomber malade, c'est aussi se mettre en péril économiquement, etc., etc. Bon, bref. Donc déjà, mais il y a cette idée de... Là, sauf que la pollution visible, la pollution extérieure, en fait, c'est que dalle par rapport à la pollution des émissions de gaz à effet de serre, ou les pollutions invisibles en termes de gaz, etc., qui sont font beaucoup plus de mal à la planète que les pollutions visibles. C'est vrai qu'il y a cette dans l'éco-citoyennisme, quelque part, il y a aussi l'idée qu'il faut être propre, quoi, et du coup, c'est aussi une autre façon d'exprimer un mépris de classe, quoi.
Et justement, c'est en raisonnant en termes de style de vie qu'on arrive à aller à l'encontre de cette pensée éco-citoyenniste et à voir que ces pratiques éco-vertueuses qui sont tant valorisées et qui sont utilisées dans ce mépris de classe, c'est ces pratiques éco-vertueuses qui permettent de se labelliser en tant que conscient, en tant qu'agissant pour l'environnement, de culpabiliser les classes populaires, les classes dominées comme t'en as parlé, et que en fait c'est leur mode de vie à ces classes dominantes qui s'avère au final bien plus pollueuse, bien plus consommatrice, oui. Et bien plus inégale dont les privilèges
Ouais, concrètement, c'est par exemple le fait que dans les classes dominantes, ça va de soi de partir en week-end, de partir à l'étranger pendant les vacances, c'est ce qui est valorisé, c'est ce qui est glorifié un petit peu, quoi. C'est un rapport à la mobilité, le fait d'aller vite aussi, de pas perdre de temps. Donc c'est ça le style de vie bourgeois aujourd'hui. Et effectivement, on le sait, hein, plus on va vite, plus on va loin, plus on pollue. Voilà. Donc sauf que ce style de vie, il est nécessaire au capitalisme, il est nécessaire à l'organisation capitaliste des sociétés et des vies. Et c'est en ça que l'éco-citoyennisme est une morale de classe, et que il correspond aussi effectivement à une croisade morale pour En fait, croisade morale, c'est-à-dire, derrière le citoyennisme, il y a des gens qui se mobilisent pour promouvoir une morale, les bons et les mauvais comportements, une morale qui est propre aux classes dominantes, mais qui leur permet surtout de faire en sorte que l'écologie ne vienne pas dévaloriser, disqualifier leur mode de vie, leur style de vie. Je crois que c'est ça, en fait. Pourquoi ? Parce que l'écologisme, comme on l'a dit, il est toujours positif, exemplaire, donc il ne critique pas, il ne montre pas du doigt les mauvais comportements. Aussi parce qu'il est sur les petits gestes. C'est une rhétorique en termes de petits gestes ou de comportements compartimentés. Donc on ne réfléchit pas en termes de style de vie globaux, l'ensemble des pratiques. Ce qui, en fait, impliquerait de remettre en cause le fonctionnement du marché du travail, les rapports dominants au temps, au rythme temporel, au confort matériel, et à tout un tas de choses. Du coup, cet éco-citoyennisme, c'est une morale de classe, je dirais petite bourgeoise, parce qu'elle est portée par les dominés des dominants. C'est pas porté par les dominants dominants, c'est porté par les dominés des dominants, c'est-à-dire par des gens qui sont privilégiés, ont une stabilité sociale, ont tout un tas de privilèges, mais ne sont pas au poste de pouvoir les plus importants. Du coup, d'une certaine façon, ils sont critiques des dominants-dominants, mais et ils veulent changer le système, mais en le réformant, sans le faire voler en éclats, parce que ils sont aussi attachés à ce système-là. Donc oui, c'est des dominés, mais chez les dominants. Voilà. Donc et du coup, leurs propos, cette morale de classe qu'ils mettent en avant, petite bourgeoise, hein, les petits bourgeois, c'est eux les dominés des dominants. Eh bien, elle est globalement inoffensive à l'égard des dominants, parce que elle remet pas en cause le système, les structures.
Parce qu'ils veulent les rejoindre aussi. Il y a cette volonté d'ascension est importante.
Et ça, on le voit quand on fait des entretiens. Enfin, quand je travaille. Quand je fais des observations sociologiques, des analyses sociologiques, observations ethnographiques de ces groupes qui sont à l'avant-garde de l'éco-citoyennisme, voilà, c'est un peu les nouvelles, c'est ce que j'ai appelé dans une précédente émission les progressistes conservateurs, c'est-à-dire qu'ils sont progressistes en disant voilà, nous on se soucie de la planète, on se soucie des autres, on va faire de l'humanitaire, on va faire de l'économie sociale, etc. Mais en même temps conservateurs parce que tout ça tout en conservant le cadre capitaliste, en fait. Et du coup, ça les amène à développer une idéologie de classe, une morale de classe, mais c'est aussi une idéologie éco-citoyenne qui est inoffensive par les dominants, pour les dominants, mais qui peut tout à fait être plus ou moins récupérée ou en tout cas assimilée par les classes dominantes ou ceux qui, voilà, quand celles-ci veulent faire preuve de progressisme, quoi. Mais surtout, cet éco-citoyennisme, il n'inclut pas, on l'a dit, il est à distance des classes populaires. Du coup, on voit qu'il y a une asymétrie de l'éco-citoyennisme qui est quand même plus davantage tourné vers les classes dominantes, bien, bien davantage que vers les classes populaires. Parce que s'il se tournait vers les classes populaires, en fait, ça l'amènerait à ne plus être l'éco-citoyennisme, mais à revenir dans une forme de conflictualité. Or, l'éco-citoyennisme, c'est une morale qui se veut fédératrice, positive, souriante, optimiste, consensuelle. Et voilà, centrée sur il faut être positif, quoi. Voilà. Donc, c'est une façon de mettre à distance, de marginaliser les discours critiques, les discours conflictuels qui expliquent quand même qu'il y a peut-être des antagonismes de classe.
Ouais, et puis peut-être qu'aussi que l'intérêt de la bourgeoisie est dans l'État et que du coup, comme tu dis, se rapprocher des classes populaires, ça voudrait finir remettre à plat complètement le système politique et du coup plus dans une visée potentiellement révolutionnaire. Mais en tout cas...
Ouais, ça c'est très, très important ce que tu dis parce que c'est un point que sur lequel je voulais revenir et expliciter un peu aujourd'hui, c'était le fait que, évidemment, le privilège des dominants, c'est de pouvoir se montrer toujours de bonne volonté. Toujours bienveillant, toujours généreux. On va toujours, voilà, ça c'est un privilège de dominant. Et donc du coup, quand on explique, ils ont des cas de conscience, ils se disent mais quand même les classes populaires, les gens qui sont dominés, etc., qui ont peu de moyens, faut pas les oublier. Il y a une espèce toujours de charité chrétienne derrière, quoi. Donc il faut aussi s'adresser à eux. Et donc il y a ce souci de s'adresser à eux. Donc la question qui se pose, c'est comment les toucher ? Comment toucher les gens des quartiers populaires ? Et donc, ce qu'il faut leur répondre à ce moment-là, c'est non, mais la question, c'est pas de leur toucher. De les toucher, c'est pas de trouver un langage qui va leur parler, c'est pas d'essayer de parler leur langue. La question, c'est de leur donner les moyens de venir, eux, exprimer leur vision des choses et du coup, de défendre leurs intérêts. Et donc, La question, ce n'est pas de s'adresser à tout le monde dans des termes qui parlent à tout le monde, ça c'est juste impossible. Mais c'est l'idéologie de la communication, de ceux qui font la communication, etc. La question, en fait, c'est ce que tu dis, c'est de lutter contre la monopolisation par ces classes dominantes, des instruments du débat public, des instruments de prise de décision politique, etc., et de comment redonner du pluralisme social dans les espaces du pouvoir, c'est-à-dire comment faire en sorte que les classes populaires soient représentées et accès aussi au débat public pour y faire entendre durablement, et pas juste une fois de temps en temps, durablement et de façon légitime, leur vision des choses, et ils défendent leurs intérêts dans le débat public, dans le débat politique, quoi. Et ça implique effectivement de revoir les structures sociales, les structures politiques et médiatiques, par exemple. On va commencer par là.
Mais l'idée de défendre ses intérêts, de pouvoir s'exprimer et de défendre ses intérêts, ça impliquerait de sortir de ce cadre de pensée qui est imposé et qui se limite à l'éco-citoyenneté. Et une des questions que je t'ai posées dans tous les épisodes, c'est en fonction de l'acteur abordé, c'est qu'est-ce qu'on peut faire contre. On a parlé d'analyse en termes de style de vie qui repolitise et instaure du conflit et surtout apporte un bilan écologique bien plus fidèle au mode de vie en fait des individus. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au rapport de classe, au mépris de classe, contre ce cadre de pensée?
Contre le cadre de pensée éco-citoyen?
Oui. Mis à part essayer de pousser à une analyse ou contrer les bilans individuels qui sont posés, l'idée des pollutions visuelles. Mis à part réinstaurer une analyse en termes de mode de vie qui permette de retourner le stigmate et de dire ah mais moi je trie pas mes déchets mais je prends pas l'avion 10 fois par année en fait, moi j'ai pas un appartement de 150 mètres carrés et j'ai pas 4 voitures non plus, donc au final au niveau du bilan on est incomparable. Et ça rejoint une citation qu'il y a dans ton livre quand tu dis qu'il vaut mieux être pauvre et ignorant que conscient et riche dès le moment où on aborde la question d'un bilan écologique.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que vouloir pointer du doigt et toujours reprocher et culpabiliser les classes dominantes, finalement, ça serait faire ce qu'on leur reproche de faire, quoi. Donc, ça serait pas forcément, je pense, la solution. Par contre, je crois que la bataille et le combat, il est sur le terrain politique, que ce soit au niveau local, comme au niveau national ou international, c'est se battre pour des structures politiques, des institutions politiques, médiatiques, qui fassent en sorte que ces dominants soient moins dominants, que leur style de vie ne soit plus privilégié. Mais je pense qu'en fait, en y réfléchissant, c'est une question difficile. Il n'y a pas de réponse simple à cette question-là. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse univoque, et tant mieux d'ailleurs. Enfin, je pense que pas qu'il en faille. Mais moi, ce que je crois, par exemple, important, c'est de construire, d'élaborer des institutions sociales, des institutions collectives qui peuvent... Par le mot institution, ça ne veut pas dire forcément des institutions en termes de ministères, d'agences, d'inspection et tout ça. Hein. C'est institution au sens un peu, pour le coup, ethno-anthropologique du terme, quoi. C'est-à-dire comment on sort des modes d'organisation de vie collective qui soient basés sur d'autres référentiels. Pourquoi c'est... Donc c'est, je crois que c'est un peu... Moi, c'est ce qui m'intéresse en tant que sociologue radical sur, par exemple ici à Notre-Dame-des-Landes, c'est comment qu'est-ce que ça veut dire que de vivre radicalement autrement collectivement, et comment ça vient travailler nos subjectivités, nos sensibilités, etc. Mais comment aussi c'est en fait ça qui permettra de produire d'autres aspirations sociales et de faire en sorte que les aspirations, enfin que les modes de vie, les aspirations, ce à quoi les gens aspirent aujourd'hui de façon dominante, ce soit plus ça la norme, quoi. Et que du coup, qu'on crée en fait des lieux de parce que l'individu il est construit socialement, des lieux où on construit socialement, collectivement, d'autres types d'individus, des individus qui adhèrent à d'autres modes d'organisation collective de nos vies, de la société, etc. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, il faut, pour moi, le combat, il est de construire des lieux de socialisation radicalement alternatifs. C'est-à-dire que, donc, ça rejoint un peu du coup la discussion qu'on avait eue à la fin de la dernière émission. C'est il y a l'idée de l'éco-citoyennisme et une grande partie du mouvement écologiste cherche à changer les choses de l'intérieur. Il faut défaire, enfin il faut refaire à l'intérieur du cadre et faire autrement à l'intérieur du cadre. Il y a les alternatives, tous les mouvements de transition, etc., qui eux veulent faire autre chose à côté, mais qui du coup laissent prospérer le cadre. Donc ça, c'est les mouvements de transition, etc. Et il y a le troisième, la troisième vision du changement, de transformation sociale, qui consiste à non seulement faire à côté, faire radicalement autrement à côté, tout en luttant contre le cadre existant. Pour le défaire, parce que, enfin pour le combattre, pour le défaire, parce que c'est la condition pour que ce qui est dominant aujourd'hui devienne marginal demain et que une majorité de gens quand même adhèrent, parce qu'on adhère de façon démocratique, de façon délibérée à autre chose que ce que nous vend le capitalisme en termes d'affect, de désir, etc. quoi. Mais ça, c'est ouvert à discussion. Enfin, là, j'avance sur des choses. Enfin, moi, c'est un peu mon programme politique, c'est celui-là. Mais c'est-à-dire, il faut défaire les structures, enfin, combattre les structures existantes pour ouvrir des espaces permettant des structures radicalement alternatives qui produiront des êtres sociaux qui aspireront à autre chose et qui seront juste écœurés en fait par l'esthétisme, les subjectivités, les sensibilités, les désirs qui sont aujourd'hui valorisés, dans toute leur diversité d'ailleurs, par les structures sociales du capitalisme.
Par rapport aux outils qu'on aurait à disposition, quelque chose que tu as dit plusieurs fois et qui m'a beaucoup parlé et que j'aime à rappeler, que ce soit pour moi ou pour les autres, c'est l'idée qu'on ne change pas le monde par les idées ou d'aller à l'encontre. Moi, c'est un combat que je trouve important quand je posais la question qu'est-ce qu'on peut faire, c'est de combattre ce genre de discours qui dit c'est en changeant soi-même qu'on change le monde, et de pouvoir soit le critiquer, soit le complexifier ou aller à l'encontre directement de ce genre de d'idées, c'est quelque chose qu'on a abordé plusieurs fois dans ces émissions, c'est que en fait ça rentre dans l'optique individuelle et apolitique de l'éco-citoyenneté, l'idée que faut se changer soi-même et que il en découlera le sauvetage de la planète, alors que il me semble que ce qu'on a essayé de montrer pendant toutes ces émissions, c'est que c'est justement en s'attaquant à l'organisation de la vie collective et aux institutions, en s'y attaquant pour les changer ou pour les détruire, qu'on pourra impacter en fait sur ce qu'on vit au niveau de l'environnement, au niveau des changements sociaux, que ces institutions s'appellent État, médias, salariat, patriarcat ou école.
Effectivement, il y a cette idée être le changement que l'on veut voir advenir dans le monde, enfin toute cette rhétorique, se changer soi-même pour changer le monde. Moi, je pense qu'il faut d'abord changer le monde pour se donner les moyens de se changer soi-même. Pour le dire autrement, je crois qu'il y a on a tous entendu cette phrase, si on veut, on peut. Si tu veux, tu peux. Ça, c'est typiquement un lieu commun, un poncif qui est répété dès le plus jeune âge et qui fait partie de la rhétorique dominante, de l'idéologie dominante. Moi, je crois que c'est tout l'inverse, c'est que si on peut, alors on veut. Et en fait, il faut réfléchir à ça. C'est-à-dire que, et du coup, ça veut dire que si on a les moyens matériels, si on a les moyens, si on se donne les moyens collectivement, alors on pourra collectivement des choses, mais c'est pas parce qu'on le décide qu'on va se donner les moyens collectivement, effectivement. Donc en fait, c'est l'idée que c'est le rapport entre la culture et le matérialisme, ou entre la pensée, ce qui est les idéaux et les conditions matérielles de vie. Il ne faut pas inverser les choses. Et souvent, dans les alternatives, dans les mouvements alternatifs, ce qu'on voit, c'est des gens qui disent « je vais mettre mes conditions matérielles d'existence en adéquation avec mes idéaux ». Et en faisant ça, en fait, ils rejoignent d'une certaine façon l'idée de « si tu veux, tu peux ». Là, tu veux être cohérent avec tous tes idéaux, donc tu vas abandonner ton métier d'avocat et tu vas devenir artisan dans un éco-village. Donc, tu mets tes idéaux. Très bien. Mais ça c'est encore un privilège de dominant. Parce que quand même, la grande majorité des gens, ce qu'ils désirent, leurs désirs, leurs envies, leurs idéaux sont d'abord déterminés par leur histoire sociale, par leurs ressources, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut, si on veut... Que finalement les alternatives ne soient pas le privilège de quelques-uns qui ont les moyens de se dire je vais mettre en adéquation ça va pas être facile, effectivement je vais perdre un peu de mon confort, mais j'y gagnerai parce que j'aurai une meilleure estime de moi. Si on veut que cette logique là soit généralisée, il faut en fait commencer par changer les conditions matérielles du plus grand nombre, et ça relève du politique, ça implique une organisation collective qui quand même va concerner un grand nombre de personnes, quoi. Mais ça je pense que ça doit se faire, ça va prendre du temps. Enfin, Et je crois que ce qui est très important, c'est aujourd'hui de politiser les collégiens, les lycéens, les étudiants, ou les lieux de travail aussi, repolitiser le travail et encourager ça pour que les gens, en fait, ensuite fassent des choix politiques. Ça ne veut pas dire voter pour un parti, ça peut être l'abstention, ça peut être soutenir des luttes comme celle-là, comme ici, ou d'autres, et pour que ces inégalités sociales soient plus acceptées, quoi.
Ouais, juste politiser les lycéens ou les collégiens, c'est vrai que là, ils se politisent eux-mêmes en bloquant leur lycée, en ce moment, par exemple, ou tout le temps, en fait. Et effectivement, politiser, comme tu dis, j'aime bien en tout cas le truc d'être présent s'il y a un appel... de leur part, et j'ai l'impression que c'est le cas quand ils bloquent des lycées et qu'ils descendent dans la rue. Et effectivement, ça, faire tourner nos outils, ça peut être sympa.
Oui, puis les amener à...
Notamment nos outils, tu vois, je pense en termes de lutte féministe. Moi, je sais qu'il existe des choses que j'ai lues depuis, que j'aurais aimé lire à 15 ans, je me serais fait moins de mal, quoi. J'aurais moins laissé d'autres me faire du mal. Enfin, bref, je voulais juste revenir sur plusieurs choses depuis tout à l'heure. Quand tu disais sur le changer, se changer soi... changer, machin, et effectivement, quand tu veux, tu peux, tout ça. En fait, j'ai l'impression qu'effectivement, ce qui est intéressant, tu reparlais d'ici, de la lutte d'ici, et de ce qui se passe. Alors déjà, une petite note sur les institutions. Effectivement, le mot institution, par exemple, ici, quelque chose comme le non-marché, la réunion des habitants, le cycle des 12, tout ça, c'est des institutions.
Exactement.
Voilà, c'est ça.
Exactement.
Que, si ouais, tout à fait d'accord. Cet exemple-là.
Ouais, super, merci.
Institution comme étant quelque chose institué après concertation commune et qui n'est pas forcément quelque chose d'étatique et qu'effectivement, encore une fois, le sens des mots. Maintenant, quand on dit institution politique, on entend forcément quelque chose d'administratif, on entend forcément quelque chose... voilà. Et ça encore, c'est une institution peut ne pas être administrative selon comment on l'administre, si, effectivement, mais en tout cas pas forcément bureaucratique. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, par exemple ici, pour revenir sur ce truc-là de « tu te changes toi-même », c'est qu'en fait, ça part plus dans le constat qu'on ne peut pas se changer tout seul. Et qu'on ne peut changer qu'ensemble, en fait.
Exactement.
Sinon, on reste dans l'universel, genre à partir de soi et pour se dire que tout ça, c'est bon, qui est la définition de la domination, enfin, qui fait partie des outils dominants d'affirmer que ce qu'on pense est universel et du coup, tout le reste est dans le faux. Ça revient encore les réflexions sur les termes vrai-faux, d'ailleurs. Un téléphone qui avait vrai, serait-ce un poète-poète klaxon ? Quelqu'un nous aurait-il envoyé un texto, quelqu'une ? 07 53 38 06 70 ? Les copains, les copines ? Non, je crois que c'est juste qu'il est chargé. Le téléphone est intelligent, il nous dit qu'il est chargé, qu'on peut le débrancher dans une perspective citoyenniste de ne pas gâcher le nucléaire d'Areva. On pourrait faire un petit point sur les compteurs intelligents un jour, mais c'est vrai qu'ici, ça ne nous parle pas forcément. et du coup, voilà, se changer ensemble, et je trouvais ça assez intéressant.
Ouais, je crois que c'est important parce que faire une critique de l'écosystème, ça ne veut pas dire qu'il faut balancer du pétrole partout, tout polluer, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. Ça veut juste dire qu'il faut faire attention à ne pas l'ériger en morale et à ne pas juger les gens en fonction de leur bon ou mauvais comportement selon notre point de vue. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si des gens ont envie de... très bien.
Effectivement, et pas oublier que reproduire des choses de morale bourgeoise, que tu as détaillé quand même pas mal certains trucs, là, qu'en fait, parfois on peut penser... déjà contre l'État et tout ça, et dans une perspective notamment anarchiste. Et en fait, on reproduit néanmoins des choses de morale bourgeoise. Et effectivement, l'État actuel est un État bourgeois, créé par les bourgeois, pour les bourgeois, pour l'enrichissement des bourgeois.
Est-ce qu'il y a déjà eu des États non bourgeois en France ? Je ne suis pas certain. Pour peut-être du coup aussi, je crois que voilà, l'éco-citoyennisme, pour le dire autrement, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, qu'on avait évoqué dans la dernière émission sur cette espèce de confusion, de brouillage idéologique sur les injonctions à se comporter individuellement au quotidien de façon respectueuse de la planète, où on voyait que c'était à la fois très présent chez les écolos et aussi très présent dans le discours néolibéral sur l'environnement et l'écologie, etc. Je crois que ce qui permet quand même de différencier les choses, c'est que les écolos, ils essayent de transformer leur mode de vie individuel de façon collective. Et non pas chacun chez soi en essayant de faire mieux que le voisin, mais en essayant de s'organiser à l'échelle de quartier, à l'échelle de village. Voilà. Et c'est en ça, par exemple, les AMAP, qui reste quelque chose de bourgeois, etc., c'est quand même pas la même chose que l'éco-citoyennisme néolibéral, parce que c'est quand même une volonté, alors ça réussit plus ou moins, mais au départ, le projet, il est quand même d'essayer de collectivement s'organiser. Bon, après, voilà. Et puis, toutes les ANAP ne sont pas les mêmes, etc. Bon. Les groupements d'achat solidaire et épicerie, les GAZ, qui se développent de plus en plus, c'est aussi l'idée de mettre en place des dispositifs d'autogestion pour s'approvisionner en privilégiant les circuits directs, les circuits courts, etc. Quoi. Donc, d'une certaine façon, voilà. Mais le problème, c'est qu'encore, voilà, c'est ce qu'on constate quand même, c'est que les gens qui se mobilisent pour ça, même s'ils sont du coup dans une forme de conscience écologique qui n'est pas néolibérale, ils ont du mal à s'ouvrir ou à. Enfin, c'est les gens qui mettent ça en place, c'était quand même des petits bourgeois, mais qui peut-être proposent des choses qui pourraient davantage résonner avec les conditions de vie des classes populaires. Mais là, on se heurte aussi à une difficulté, une autre difficulté qui est celle du confinement social, enfin, du fait que le néolibéralisme, un des principaux ravages qu'il a fait, c'est qu'il a segmenté, c'est le séparatisme social, c'est une forme de ségrégation sociale et spatiale. Et que du coup, il faut remettre en confrontation aussi des classes sociales aussi dans les espaces publics, pour que ça puisse se présenter autrement. Je voulais juste faire une précision de linguistique. J'ai beaucoup parlé de politisation, de politiser. Il faut politiser les alternatives, politiser les jeunes générations, enfin les plus jeunes, etc. C'est important. Qu'est-ce que j'entends par politiser ? C'est pas juste leur dire que la politique c'est important. Il faut qu'ils s'intéressent à la politique et qu'ils s'engagent. Non. Surtout politiser, pas. C'est en fait acquérir ce qu'un sociologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gérard Mauger, a appelé la pensée pensante. Les conditions de la pensée pensante, c'est-à-dire acquérir une réflexivité, c'est-à-dire les amener à interroger les logiques collectives. Se politiser, en fait, c'est interroger, c'est en fait acquérir une pensée structurelle du monde, ce qui amène à une remise en cause de l'ordre social. C'est ça, politiser. Politiser, aujourd'hui, c'est pas juste s'intéresser à la politique, comme on le dit trop souvent, ou aller voter, ou voilà. Non, c'est pas ça. C'est la vision faible de la politisation qu'on voit répandue dans tous les discours qui se plaignent du détournement des jeunes, des partis, de la politique, de la démocratie. Non. Se politiser, c'est remettre en cause l'ordre social pour aussi faire l'histoire et participer à la politique au sens de participer aux luttes structurelles qui animent la vie collective, la vie sociale et la démocratie.
Ça en revient simplement à réintroduire du conflit, de réaliser qu'on défend les intérêts de sa position, ouais. Et vu qu'on n'occupe pas les mêmes positions, qu'on n'a pas les mêmes privilèges, c'est réintroduire du conflit en fonction de ces différents clivages.
Et ce qu'on observe de plus en plus, c'est que ce conflit, il vient en fait dans la confrontation aux autres. Dans la confrontation, dans la coexistence, dans la coprésence aux autres. C'est-à-dire que si on reste, je sais pas, que ce soit dans son château de bourgeois ou dans sa tour d'immeuble de quartier ou dans sa ferme de monde rural, si on reste là, si on n'a pas de contact avec les autres espaces sociaux, finalement, ça ne favorise pas la vision structurelle du monde social, le fait qu'il y a des différences, du coup on s'interroge, du coup ça nous irrite, ça nous contrarie, et du coup ça crée du conflit. Donc c'est ça aussi, quoi. Et à mon avis, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait du conflit, mais du coup aussi alors j'aime pas ce mot mixité sociale, mais pourtant c'est un peu de ça, enfin en tout cas qu'il y ait, voilà.
Ouais, je voulais rebondir là-dessus justement, quand tu parlais tout à l'heure de confrontation des classes sociales dans l'espace public, effectivement le constat que l'espace public n'existe plus, quoi, enfin la rue, l'espace public a cessé d'exister à partir du moment où on a commencé à devoir demander pour son utilisation, comme si c'était quelque chose de privé, quoi. À partir du moment où il faut demander pour aller dans la rue, enfin, y a un problème. Et du coup, en fait, effectivement, c'était ce constat-là. Quand tu disais les petits bourgeois s'organisent sur les circuits courts, par exemple d'alimentation, que ce soit les AMAP ou les espèces d'épiceries où tu travailles pour payer moins cher. Parce que je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a la Louve à Paris, voilà. Effectivement, ce genre de choses. Et du coup, c'est quand même effectivement louable que de vouloir sortir. Enfin, louable, en fait, j'en sais rien. Je ne suis pas là pour juger ou dire quoi qu'est-ce. Mais en fait, effectivement, de vouloir sortir des grosses distributions et pas vouloir bouffer de la merde et l'acheter à un producteur. Enfin, il y a quelque chose de. Voilà, c'est quand tu dis circuit court, qualité. Et ne pas dépendre des consortiums, mais un peu l'auto-organisation alimentaire, sur l'alimentaire, notamment quand on est en ville. Parce que les AMAP, c'est juste qui se passe en ville, tout ça, c'est la ville déconnectée. Mais que néanmoins.
Il y en a aussi à la campagne.
Il y en a aussi à la campagne, les AMAP.
Oui, il y en a aussi. Ouais. Dans les villages,
etc. Ah ouais, cool. Ouais. Je sais pas du tout.
Pas partout, mais ça existe aussi, quoi. Au départ, c'était très urbain, mais un peu moins. Mais Voilà, c'est pas toujours bien vu dans les campagnes, justement.
Ouais, après, il y a de moins en moins de gens qui mangent aussi sur leur récolte, en fait, au final, ouais. Si c'est que des trucs monoculture.
Ouais.
Mais ça reste petit bourgeois, notamment dans le truc d'améliorer son confort de vie personnel et... Enfin, moi, ça m'interroge ce truc-là, toi, la louve et tout ça, c'est un truc qui me...
Bah, disons que
j'arrive pas à décrire ce qui me gêne, j'arrive pas à le dire vraiment clairement.
Moi, peut-être que ce qui peut te gêner, c'est le fait que dans ces espaces alternatifs-là, la critique sociale, la critique politique est souvent pas très bien accueillie. C'est-à-dire que c'est des espaces qui, finalement, sont politiques dans le sens où ils veulent... la démarche est motivée par une critique de la consommation de masse, du capitalisme, etc., Mais bien souvent, cette critique, elle est là pour les premières réunions de mise en place. Et puis ensuite, voilà, bon, bah, ça y est, on a fait notre truc. Maintenant, ça nous va bien. Et en fait, c'est une mise à distance. Enfin, il y a du coup, ils se tiennent à distance des luttes. Je pense que ça pourrait être des lieux où il y aurait beaucoup plus aussi un échange sur ok, quels sont les combats du moment, comment on va plus loin aussi dans à la fois dans l'alternative mais aussi dans défaire ce qui nous a posé problème au départ, quoi.
Oui, parce que du coup il y a du commun qui dans se la contestation. Crée et ouais. Ça pourrait être un espace, ouais.
Mais du coup voilà, il y a du commun mais c'est souvent un commun qui est dépourvu de contestation ou de critique, de colère, etc.
Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un truc d'identité très fort en ce moment, que la thématique de l'identité, ces dernières années, que Sarkozy ait créé les trucs d'identité nationale, moi je ne trouve pas ça anodin, et que le terme identité, qui pour moi a une définition très intime, de je préfère les fleurs bleues ou rouges, enfin, sans être aussi basique, quand même un truc d'intimité, d'identité, qui a une définition intime de ce qu'on préfère faire, de qui on est, si on est plutôt speed, enfin, si on aime les films, enfin, je sais pas, pour moi, justement, j'ai que des mauvais exemples. Bon, aimer la vitesse, pas aimer la vitesse, aimer la hauteur, pas la hauteur, aimer se rouler en l'air, pas, préférer la pluie, le soleil, tout ça, pour moi, ça fait partie de l'identité. Si on est gourmand, pas gourmand, et que l'identité aujourd'hui, c'est réduit vachement à ce que tu consommes. Tu préfères Pepsi ou Coca-Cola? Tu préfères plutôt tel acteur ou un autre? Tu préfères ci ou ça? Très réducteur. Et donc, il y a ça, ton identité de consommateur, et ton identité raciale ou sexuelle, en tout cas, qui vient de l'extérieur et qu'on te colle à la peau. En tout cas, c'est une étiquette et la seule marge de manœuvre que tu as dedans, c'est pour qui tu votes, qu'est-ce que tu choisis au supermarché, et en fait, tes choix de consommateur. Et c'est comme ça que la citoyenneté et la consommation se mélangent aussi. Et comment le politique se dissout dans la politique qui revient à faire ses courses au supermarché, en fait. Il y a un truc comme ça.
Ça, c'est tu as bien résumé et reformulé un peu, je crois, tout le cœur du propos des émissions. Mais revenir sur ce que tu disais juste au début, enfin, de ton intervention, c'est le fait qu'effectivement, on sent dans ces espaces-là toujours très présente une forme de pression normative, de pression morale, quoi. Voilà, c'est des espaces où si tu dis que t'as craqué sur un pot de Nutella, ça va être mal vu, quoi. Donc il y a quand même un peu ce souci aussi, voilà, qui peut-être, je sais pas si c'est ça, hein, j'essaie de voir ce qui a pu te déranger, mais c'est sûr que c'est-à-dire que en fait dans l'équilibre entre critique structurelle, critique des institutions collectives, etc., et critique du comportement individuel, il y a toujours très fort la critique du comportement individuel, quoi, peut-être trop fort, quoi, voilà.
Bah, y a un truc aussi que ça renforce aussi les ségrégations, mine de rien, parce que ça maintient comme un privilège d'accès à certaines ressources quand on a les moyens financiers, ou que dans un même quartier, ou d'autres les ont pas. Enfin, je trouve que ça, il y a un truc de renforcement des ségrégations qui est pas si.
Non, c'est pas simple. Ouais.
Cette initiative peut être intéressante, effectivement.
Non, juste, peut-être avant de conclure, mais ou pendant que je conclue. L'idée qu'on a, enfin, je crois qu'un des objectifs qu'on avait, qu'on n'a absolument pas réussi à atteindre dans la série d'émissions, c'était de faire des critiques aussi des propos du livre ou de mon propos, ou voilà, qu'est-ce qui pourrait être plus poussé, ou qu'est-ce qui est trop rapide, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est d'y réfléchir. Je fais ma conclusion. Enfin, je propose.
Moi, j'ai peut-être une proposition de. Je sais pas si c'est une critique directe à ton livre ou si c'est. C'est plutôt général. C'est mon appréhension ou ma peur de tout ce qui se présente comme alternative. C'est d'ailleurs un terme que j'utilise pas du tout, mais de tout ce qui se vante comme alternative. De tout ce que j'ai vu, et j'ai essayé d'y réfléchir. C'est souvent des alternatives qui suffisent à elles-mêmes. Tu parlais de quelle proportion de conflictualité politique dans ces alternatives il y a. Est-ce que c'est peu ou beaucoup? En fait, j'ai l'impression que simplement ça disparaît par définition pour que l'alternative continue à exister. Et que en fait, ça s'accompagne pas d'une critique sociale, d'une contestation politique conséquente. Et un des exemples dont on a beaucoup discuté, c'était ce film Demain, où on dit tout est bon à prendre. C'est la politique des petits pas. Où dès le moment où c'est un premier pas, c'est quelque chose de bon en soi. Et moi, quelque chose qui me fait assez peur, c'est qu'en fait, au lieu d'être un premier pas, ça pourrait, et je pense que c'est souvent le cas, être un dernier pas, dans le sens où on fait un pas en direction de cette soi-disant critique et on s'en contente, on s'arrête là et on se dit on a fait notre taf et forcément autour de moi les gens pensent pareil, je suis conforté dans ce que j'ai fait par ce qui est les normes désirables, tout ce que véhicule ce très mauvais film et que en fait on va pas plus loin. Et pour moi ça participe pleinement de cette pacification, d'une approche sans conflit, sans ennemi, sans risque. Et j'ai peut-être plus peur de ces acteurs-là que des personnes qui revendiquent directement soit leur mode de vie énergivore, soit le fait qu'ils s'en foutent complètement des questions environnementales. Je pense que j'ai beaucoup plus peur de ces acteurs-là. Et je pense que c'est quelque chose qui manque en fait dans ce qu'on a abordé.
Ouais, je suis d'accord. Alors ça manque parce que voilà, c'est lié aussi au fait que mon travail c'était sur la période quand ça s'est terminé fin des années 2010 et que en fait ces alternatives dont on parle en fait elles se sont développées, démultipliées juste après, donc du coup tout ça pour dire que je les ai moins étudiées. Je l'ai fait un peu plus récemment, notamment dans le cadre d'un numéro de la revue Savoir Agir que j'ai coordonné sur les alternatives à géométrie variable, où l'idée c'était aussi de dire que, enfin en tout cas mon propos d'introduction, c'est qu'effectivement, bien souvent les alternatives, dans la mesure où elles tenaient à distance des langages de la conflictualité, des langages des classes sociales et des luttes, elles ne pouvaient pas vraiment être autre chose qu'une caution rafraîchissante de l'ordre social. Aussi parce que les gens qui sont dans ces alternatives, voilà, ça engage tout leur rapport, leur propre rapport au monde social. Et leur propre rapport au monde social, il n'est pas si conflictuel que ça. Il n'est pas tant dans le rejet. Et je crois que tu as tout résumé en disant la grosse problématique politique des alternatives, c'est qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Et que c'est un des penseurs très à la mode dans ces milieux-là, c'est Holloway, je crois que c'est un gars qui s'appelle Holloway, qui explique qu'il faut changer le monde sans prendre le pouvoir, qu'on peut changer le monde sans prendre le pouvoir. C'est ça un peu l'idée des alternatives, c'est on peut plus faire confiance aux décideurs, aux institutions politiques, économiques, techniques, etc. Donc on va prendre en main notre nouveau destin politique, on va s'organiser à l'échelle locale, on va mettre en place des alternatives, et voilà, ça va essaimer. Hein, ça va se diffuser comme ça, un peu de proche en proche. Et puis, voilà, finalement, on va atteindre un effet de seuil. Et en fait, ça deviendra... Voilà. Mais moi, je crois que ça ne marche pas comme ça. Et que raisonner comme ça, du coup, ça permet effectivement de faire l'économie et de se dédouaner d'une critique plus radicale et plus contestatrice. Sauf que, du coup, ça permet justement à l'ordre dominant de s'accommoder en fait de ces alternatives, de finir par les récupérer. Voilà, il y a qu'à voir l'agriculture urbaine, quoi. C'est devenu un mot d'ordre politique. Au départ, c'est censé être un truc alternatif. Je pense que la liste va commencer à être longue des alternatives qui sont devenues des objets de politique publique locale. Et Nantes, c'est un excellent observatoire de ça. Hein. Il faut lire de temps en temps Nantes Métropole, la revue de la municipalité de Nantes, qui, évidemment, fait la part belle aux alternatives, qui va flatter, qui va draguer, qui va séduire les alternatives. Donc, bah, allez, votre prochain truc, ça pourrait être un peu plus grand, on vous donne quelques subventions. Et au final, c'est ça, quoi. Sauf que du coup, ben voilà, parce que, mais aussi je crois parce que ça tient à la sociologie des gens qui font ça, qui sont pas des gens qui sont biberonnés à une critique radicale du monde social. C'est des gens qui ont des formations d'architecte, de juriste, d'ingénieur, d'agronome, etc. Et qui sont pas nés dans une critique du capitalisme. Donc pour eux, voilà, ça leur convient pas, on va faire autrement. Et puis ça suffit à soi-même, quoi. Sauf que ben, dans ce cas-là, l'alternative, en fait, ben, voilà, ça va devenir la norme. Voilà. Et c'est en train de le devenir d'ailleurs. Donc il faut, c'est, quand je dis politiser les alternatives, c'est faire en sorte que les alternatives soient au quotidien animées par une remise en cause de l'ordre social. Et je crois qu'on en est loin, comme tu le dis. Et en même temps, ce qu'on observe aussi, c'est que les alternatives peuvent être des expériences de politisation, parce que ça peut amener des personnes à se poser des questions, à se dire mais en fait on peut faire autrement collectivement, et du coup voilà. Mais là où je crois que, enfin en fait tu réponds à pas mal de mes questions, c'est que effectivement je crois que c'est éphémère du coup. Parce que comme les alternatives sont dépolitisées ou peu politisées, ok, il y a peut-être un moment de ras-le-bol, je vais faire autrement, fuck le système. Sauf qu'une fois que j'ai fait autrement, bah, j'arrête de fuck le système, voilà, et on continue quoi. Je te rejoins là-dessus, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est vrai que voilà, pour faire une critique du livre, parce que t'es gentil, tu le fais pas. Voilà, mais dans le livre, je crois que j'ai des propos sur les alternatives que j'appelle pas comme ça non plus, il me semble, qui sont un peu idéaliste ou peut-être trop idéaliste. Et voilà, je pense qu'effectivement tu parles du film demain de Cyril Dion, c'est quelqu'un quand même qui soutient Pierre Rabhi qui s'était présenté à l'élection présidentielle. Enfin, on est sûr de, c'est des gens qui quand même s'acoquinent avec les détenteurs du pouvoir économique, médiatique, culturel et politique. Donc pour s'acoquiner avec ces gens-là, il faut partager un minimum leurs valeurs, leur vision du monde, leur sensibilité, et ne pas, du coup on n'a pas envie de leur faire du mal, et du coup petit à petit on devient un allié, la caution exotique de l'ordre dominant. Voilà. Et c'est ce qui est devenu aujourd'hui Pierre Rabhi, les Colibris, etc. Je crois que c'est des gens qui en fait font beaucoup de bien au système dominant et qui lui permettent, tu lui apportes une bouffée d'air, une caution rafraîchissante. Voilà.
Ouais, moi j'avais juste une petite note qui sort de l'écologie pour le coup, mais par rapport à la que tu venais de dire sur les initiatives, comment on se déresponsabilise. Bah, c'est juste une petite note juste avant les élections là, que quand même le principe d'élection représentative, bah, en fait c'est la même chose. Et c'est que du coup il y a un, parce que j'ai lu un texte là-dessus qui était très très bien il n'y a pas longtemps, qui parle de ça, qui explique comment l'élection en tant que telle, le fait d'aller voter pour un parti, pour un individu, et le moment démocratique par excellence qui a été sanctifié, tout ça, et qu'en fait c'est le moment où tu te dépossèdes du moment démocratique, parce que tu passes de direct à représentation, et une fois que tu as fait ça, ça y est, t'as fait ta politique des 4 années, et basta quoi.
Ah, tout à fait.
Voilà, c'était juste la petite note.
Et juste pour faire un autre. Bon, par exemple, voilà, il y a plein de critiques à faire évidemment au bouquin, etc., qui est très très incomplet. Par exemple, un gros manque, c'est toute la question du genre, les rapports genrés à l'écologie. Enfin, parce que j'ai fait le choix de commencer par les classes sociales, ce qui me semblait le plus important, le plus structurant. Commencer par le commencement, c'est les rapports de classe, qu'il faudrait ensuite venir affiner par aussi des rapports en termes de fraction de classe, mais aussi tenir compte d'autres variables comme l'âge, par exemple, et évidemment le genre, dont je ne parle pas dans mes travaux pour l'instant, parce que c'est compliqué. Mais ce qu'on dit sur l'éco-citoyennisme, c'est, je pense que on retrouve les mêmes débats sur le féminisme. Il y a un féminisme petit bourgeois, un féminisme d'État qui consiste à, c'est le féminisme qu'on pourrait appeler, alors je suis pas du tout un spécialiste du féminisme, mais tu me diras si je dis des bêtises, mais en gros, le féministe du gentleman, courtois, qui a les bienséances du respect des femmes. Et puis il y a le féminisme structurel, anticapitaliste, un peu à la Angela Davis.
Parce que le premier, c'est pas du féminisme, c'est de de la galanterie.
féminisme de galanterie. Mais je crois que pour beaucoup, le féminisme des classes bourgeoises, c'est de la galanterie en fait.
Et quand on est galant, c'est qu'on veut obtenir. Enfin, il y a un truc de, en tout cas, galant, c'est quand t'as reconnu qu'il y a une différence. Ouais, il y a une différence genrée que tu soutiens complètement.
Ouais, tout à fait.
La galanterie faisait porter un corset aux femmes, quoi. Enfin, y a un truc. Par galanterie, tu te mets derrière une femme quand elle monte les escaliers, parce qu'elle pourrait s'évanouir à cause de son corset. Et tu te mets devant quand. Non, tu te mets derrière quand vous montez les escaliers, tu te mets devant quand vous descendez les escaliers. Mais en écologie, effectivement, la question du genre, tu pourrais peut-être, en tant que piste, partir sur les trucs de naturalisation. C'est-à-dire que dans les mouvements féminismes, par contre, il y a un truc qui est intéressant sur. Encore une fois, parce que quand on parle de sexisme, quand on parle de racisme, ça touche à l'essence. Comment on perçoit que l'essence de quelqu'un est dans son sexe ou sa couleur de peau. Et que du coup, on ne voit rien d'autre. En tout cas, on ne verra toujours que ça en premier. Tu auras beau être ingénieur, tu seras un noir ou une femme. Enfin, voilà, il y a ça. Et du coup, dans ces courants, il y a un truc que des femmes ont récupéré de la puissance parce que c'était nécessaire. mais en partant et avec des constructions mythologiques et notamment sur des trucs d'essentiel, par exemple il y a des trucs les femmes louves, les femmes qui courent avec loups, ces trucs là qui est hyper important pour récupérer de la puissance parce que c'est un besoin, mais où faut faire hyper attention de pas reproduire ou de pas construire un autre. Voilà, moi ça serait la petite nuance par rapport à la nature.
Un rapport de domination, quoi.
Bah, en tout cas, un rapport extrêmement genré qui t'enferme dans ton corps. Oui, quoi. C'est pas parce que t'es une femme que t'as l'instinct maternel ou que tu chantes sous la lune. Enfin, ça veut dire, c'est il y a tout un truc avec le courant des sorcières où il y a différentes visions de ce truc-là. Il y a la vision effectivement extrêmement politique qui reprend un truc de les femmes ont été tuées et la création de la sorcière pour tuer les femmes puissantes. Et en situation de pouvoir quand elle vivait seule parce que l'homme était parti en croisade ou juste était mort. Parce que voilà, enfin bref, où il voilà, y a des femmes qui avaient une certaine forme de puissance et de pouvoir dans la communauté, par des savoirs médicinaux notamment, dont elles ont été dépossédées avec l'apparition de la médecine occidentale, et qui justement, y a par cette expertise, donc là je pense qu'on revient à ce que tu disais dans le deuxième épisode sur les experts, je ne sais pas, le troisième épisode, et par l'expertise médicale, on a dépossédé les femmes de savoirs ancestraux et on les a brûlées en disant qu'elles étaient des sorcières là-dessus. Et du coup, voilà, par rapport à ces figures de la sorcière, t'as des perceptions de cette figure qui sont politiques et d'autres extrêmement naturalistes. Et dont, moi, je pense qu'il y a, voilà. Là, vous voulez dire encore quelque chose ?
Une conclusion aux 5 épisodes de se méfier de l'État, des médias, des experts. Des scientifiques, des milieux associatifs, des mouvements écologistes, et se méfier de soi-même.
J'irai plus loin. Ouais, se méfier aussi des discours qui passent sous silence les inégalités sociales, les antagonismes de classe, et qui font qui nous disent qu'on est tous ensemble, réunis face aux mêmes défis, etc. Se méfier de ces discours-là, parce que c'est des discours qui nous amènent ensuite au consensus, au compromis, au dialogue, et qui du coup viennent pacifier, pour reprendre un terme que tu utilises beaucoup, et qui important, et du coup se méfier des discours qui individualisent et qui derrière véhiculent une idéologie de l'individu qui serait une nature humaine et qui pourrait se changer tout seul en apesanteur du monde social. Non, on est pétri de on est traversé par des logiques sociales et du coup tout ça aussi euphémisation des antagonismes de classe, consensualisation, consensus, pacification et individualisation, en fait c'est derrière une idéologie du changement, l'idéologie du changement qui est celle qui convient bien aux dominés, qui décident, ils sont pas contre le changement mais à leur rythme et à leur convenance et dans les formes qu'ils imposent, et en fait il faut nous réimposer nos formes du changement, c'est-à-dire des formes conflictuelles qui passent par des luttes, qui passent par le refus et l'intransigeance sur un certain nombre de choses et qui font qu'il y a des choses, on va se battre parce qu'on n'en veut plus, quoi.
Et après la méfiance, réintroduire du conflit, accepter cette part de conflit et que en fait vouloir se changer, changer notre environnement, notre manière de vivre, de cohabiter et de faire collectif, en fait ça c'est douloureux, ça marche pas forcément et que ça coûte. Et qu'il y a tout ça à réapprendre, en fait, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on essaye là aussi de nous pacifier en nous disant que tout va se faire dans la douceur.
Et pas de changement sans heurts, quoi. Ça, c'est sûr.
Ok. Et n'oubliez pas d'aller le 19 mars à la Marche de la Dignité à Paris.
Des pirates sur les ondes, Radio Vinci devient Radio Klaxon.